Tu vois comme je suis ? Non, tu ne vois pas comme je suis. Personne ne me remarque, jamais, long, maigre, bossu ou presque, bref. Je ne sais pas parler, prendre la parole en public, argumenter. Professionnellement, c'est terrible. Tout le monde passe devant moi, je stagne, je suis bon pour le placard. Que veux-tu qu'on fasse de moi ? Et avec les femmes, n'en parlons pas. Je ne suis pas le bonhomme qu'elles souhaitent rencontrer. Mais déjà, gamin, dans la famille, on se moquait de moi, on me disait que je n'étais bon à rien, que je ne réussirais pas, et c'est bien vrai. Que veux-tu que je fasse ? J'ai mal à moi-même. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Avec ce liminaire, vous comprenez quel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. On parle beaucoup de l'image de soi, en famille, entre collègues, dans nos églises, dans la presse, spécialisée ou pas. Alors, quelle est la définition simple que vous donneriez à l'image de soi, sachant qu'il y a plusieurs, étapes, il y a le physique, il y a le psychologique, il y a le moral, il y a le social, il y a le spirituel. Alors, l'image de soi, regroupant tous ces termes.
Une définition simple, c'est difficile, parce que c'est quelque chose de très conceptuel. Mais voilà la définition que j'en donne. L'image de soi, c'est le résultat en moi de tout ce que j'ai fait. Je répète, le résultat en moi de tout ce que j'ai fait. Et c'est clair que c'est le résultat en moi de tout ce que j'ai fait de la journée, par exemple. Si aujourd'hui, maintenant, il est 4h30, si je me suis levé ce matin à 7h et que depuis ce matin, je n'ai fait que des choses que je me reproche, alors forcément, l'image que j'ai de moi, elle est flétrie, elle est abîmée, elle est lourde, elle est douloureuse, elle va dans le sens de me rendre incapable.
Oui, mais alors, ce que vous dites, c'est que c'est uniquement depuis ce matin, 7h, vous êtes levé, mais en fait, ça peut dater depuis longtemps, depuis notre enfance, notre adolescence, bien sûr. Mais vous impliquez lourdement, là, notre propre responsabilité. Je suis comme ça parce que j'ai fait ceci. Or, moi, je crois que l'image de soi, c'est peut-être une photographie à un moment donné de ce qui m'a fait. J'ai ma part de responsabilité. Mais il y a aussi peut-être aussi des événements qui ont fait que, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, la famille, ainsi de suite, qui a fait que par mon éducation, par la façon dont j'étais apprécié, m'ont cassé et puis modelé le personnage que je crois être.
Je vais vous répondre par une parabole qui est un peu... provocatrice. Pour qu'il y ait des bonnes tomates, il faut mettre de l'engrais.
Oui.
Donc, pour avoir des tomates belles, en fait, il n'y a que la semence de tomates qui sera mise et 4 ou 5 mois après les tomates qui apparaîtront, qui fera qu'il y a des bonnes tomates, mais les bonnes tomates dépendront aussi de la qualité de la terre.
Oui.
Si dans la terre il n'y a pas assez de déchets, alors il n'y aura pas d'aussi belles tomates que s'il y a des déchets. Quels sont les déchets dans la vie de l'homme ? C'est son parcours. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous voyons les erreurs de parcours, les fautes de parcours, les difficultés de parcours, les choses que nous ont transmises nos parents, comme des problèmes, mais ces choses-là sont les déchets et donnent la qualité du terreau. Mais ce qui donne la qualité de la tomate, c'est la semence. C'est pas la qualité du terreau. Autrement dit, il ne faut pas reporter sur la qualité du terreau le problème de l'image de soi. Moi, je le reporte sur le fait que la semence n'est pas vraiment là. Quelqu'un qui veut vraiment régler ses problèmes avec Dieu, alors la semence de Dieu est là, et alors il y a des belles tomates avec n'importe quel terreau.
Avec n'importe quel terreau, oui, mais s'il est bon, et s'il y a du soleil et de la pluie, c'est quand même mieux.
Là, vous êtes en train de vous arranger, là. Hein, voilà, moi,
J'arrache tout le monde.
mais le problème, c'est que tout le monde va dans ce sens.
Et oui.
Et c'est un problème. C'est un problème, mais c'est pas un problème pour moi.
Oui, non, mais
C'est un problème pour les gens
pour
qui
les.
vont dans ce sens et qui disent c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais, chez nous on est tous comme ça, ça recommence, c'est au-dessus de mes forces, etc. Autrement dit, on se donne toutes les plus ou moins bonnes raisons de ne pas faire ce que Dieu nous demande et de ce fait, on a une mauvaise image de soi.
Oui, mais cette mauvaise image de moi, il y a aussi un peu la responsabilité des autres quand même.
Pas du tout.
Je ne parle pas de la tomate, ni de la semence, ni du pouce, ni de ainsi de suite, mais dans la société, la façon dont ils vous voient, disons, peut vous induire en erreur, effectivement. Dire, ah ben, ils réagissent comme ça, c'est que je rejetais, et c'est parce que je suis pas agréable, parce que je suis agressif, parce que je suis pas généreux, parce que et ainsi de suite.
Peut-être pour que mes propos soient plus acceptables, il faut que j'affirme que vivre en tant que chrétien, c'est très difficile.
Oui.
Voilà. Mais la question est toujours chez moi et jamais chez les autres. C'est très difficile d'avoir affaire à quelqu'un qui me méprise, à quelqu'un qui me dédaigne, qui est indifférent à moi, à quelqu'un qui veut vraiment me dominer, à quelqu'un qui veut m'utiliser. Face à ces circonstances particulièrement difficiles, avoir une bonne image de soi, c'est possible dès lors où je fais ce que Dieu me demande. Hein, on revient toujours aux mêmes
Toujours,
choses.
oui, effectivement, oui.
Et si je fais ce que Dieu me demande, alors l'image de moi, c'est le résultat de ce que je fais. Et ça marche.
Et ça marche, oui. Oui, donc, Dieu aussi a une image de nous.
Dieu a une image de nous.
Alors là, je vais vous rejoindre, là, effectivement. Puisque vous dites, il faut que je fasse ce que Dieu me demande, parce que je ne peux pas admettre que Dieu m'ait fait. Disons, tel que je me vois, moi. Alors, je m'explique d'une autre façon, je me vois mal, hein, mais en fait, si je réfléchis, je peux dire que Dieu ne peut pas m'avoir fait mal exprès.
Et le problème, c'est certainement parce que je me vois mal.
Donc, c'est un problème de lunettes.
Oui.
Voilà, il faut que je change mes verres.
Voilà.
D'accord, bien sûr. Mais on dit donc une mauvaise image de soi. Mais ne croyez-vous pas qu'il est aussi peut-être dangereux d'avoir une trop bonne image de soi?
Si.
Ah, oui, ça
Elle est
existe.
mauvaise quand elle est trop haute ou trop basse.
Voilà, oui.
Et c'est assez partagé dans la société. Hein, on peut dire qu'il y a des gens qui ont typiquement une trop bonne image d'eux-mêmes. Mais au fond de soi, je me demande si ça tient longtemps, ça. Celui qui a une trop bonne image de lui-même, quelque part à l'intérieur, je ne suis pas persuadé qu'il soit si sûr que ça d'être bon.
Parce que d'abord, c'est dangereux pour lui-même, parce qu'il se trompe lui-même, en fait, je crois, ce que vous voulez dire.
Oui.
Mais il y a aussi le fait que, bon, il se trompe lui-même, mais il va pas pouvoir résister. Effectivement, il essaie de tromper les autres, et là, ça devient encore plus gênant aussi. Hein, il donne une apparence de choses qu'il n'avait pas. Alors, se connaître va influencer notre attitude, soit positivement, hein, parce qu'il faut quand même essayer de se connaître soi-même. Hein. Il faut donc ce qu'on va influencer notre attitude soit positivement, je vais bien ou je suis bien, j'ai une bonne image, soit négativement, je vais mal, je ne suis pas bien, j'ai une mauvaise image. Mais c'est bien de se connaître, mais est-ce qu'on a la possibilité, la capacité de se connaître bien?
La réponse dans l'absolu, c'est oui, bien sûr, puisque nous avons la capacité de faire ce que Dieu nous demande. Autrement dit, nous avons la capacité de recevoir de la part de l'Esprit de Dieu l'indication spécifique de ce que l'Esprit de Dieu voudra bien nous confier. Autrement dit, si Dieu veut nous révéler ceci ou cela de notre personnalité, alors il le fait. Et je pense que la barrière ne se situe jamais, ou l'obstacle ne se situe jamais du côté de Dieu, mais toujours du côté de la personne. C'est pour ça que je mets toute la responsabilité sur la personne. Et que je ne... De la même manière, quand je suis en face de quelqu'un qui m'impressionne, qui me blesse, qui est indifférent à moi, pourquoi est-ce que je réagirais mal? C'est peut-être parce que justement, mon assise n'étant pas en Dieu, j'accorde trop d'importance à la personne qui est en face de moi.
Alors, comment expliqueriez-vous le verset de 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Donc, c'est peut-être une connaissance de choses extérieures, mais une connaissance de soi aussi, non?
Oui, je pense qu'effectivement, nous connaissons en partie. Mais ça veut dire que Dieu ne nous a pas tout révélé. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi parce que vous ne pouvez pas tellement faire autrement, tellement ça va être évident ce que je vais dire. C'est que dans ce que Dieu nous révèle en partie, il nous révèle, dans la partie qu'il nous révèle, il nous révèle ce dont nous avons besoin. Autrement dit, s'il ne nous révèle pas quelque chose, c'est qu'on n'en a pas besoin.
Ah oui, bien sûr,
Forcément.
oui.
Donc, je crois qu'on est inexcusable. On ne peut pas dire j'ai une mauvaise image de moi parce que je ne me connais qu'en partie. Non. J'ai à avoir une bonne image de moi parce que je connais de moi ce que Dieu me révèle.
Alors, restons sur la mauvaise image de soi. Admettons donc effectivement qu'on n'admet pas ou on n'a pas compris ou on ne sait pas qu'il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Et effectivement, donc pourquoi, hein, quelles sont les raisons qui font que cette image soit déformée par l'individu lui-même?
Si on reprend la définition du départ, l'image de moi dépend du résultat en mon intérieur de ce que j'ai fait. Alors, les raisons pour lesquelles je pourrais avoir une mauvaise image de moi sont très nombreuses. Hein, quelqu'un qui aurait divorcé,
Oui.
s'il n'a pas vraiment compris à quel point Dieu, même dans ce terreau, va le bénit, la bénit, et lui donne des potentialités qui touchent à son unicité. Il est unique dans son parcours. Alors si quelqu'un ne va pas dans ce sens-là, il aura une image de soi qui sera mauvaise à cause de quelque chose qui le pèse.
Oui, alors il y a le cas où sont les autres qui ne voient pas comment est vraiment la personne. Est-ce que ça vient de l'incompréhension des autres? Ils ne se désintéressent de cette personne? Ou ils ont un jugement rapide? Ou d'un conditionnement quelconque? Par exemple, la rumeur, les journaux, la presse, la télévision qui parlent d'un cas précis, une influence de quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Alors, que faire l'intéressé quand il sent qu'il est mal vu? L'image de soi, on ne peut parler que de la vue, effectivement. Donc, et que ce ne soit pas de lui, il va souffrir.
Moi, je dirais que on pourrait poser le problème de la manière suivante. Dieu nous appelle. Dieu est souverain. Et Dieu nous appelle donc à vivre des circonstances dans lesquelles rien de ce qui se fait ne peut se faire s'il ne l'a pas permis. Hein, si je suis trop compliqué, je compte sur vous pour m'arrêter.
Oui, alors je vous
Dieu
arrête.
est souverain.
Oui.
Autrement dit, si j'ai affaire à quelqu'un qui me dit je suis nul, il l'a permis. S'il le permet, c'est que ça a un sens. Autrement dit, pourquoi craindrais-je quelqu'un qui va me dire que je suis
Suis
nul?
nul.
Cette personne qui va me dire que je suis nul, soit il le fait parce que lui, il veut me dominer, auquel cas c'est à moi de discerner avec l'Esprit de Dieu que lui veut me dominer. Soit au contraire, il a raison de me dire ça, auquel cas c'est à moi de discerner là où je peux progresser.
Voilà, oui,
Mais
c'est
si quelqu'un
pédagogique,
m'aide à progresser, je le remercie.
oui.
Voilà donc comment l'image que j'ai de moi ne doit pas dépendre de l'image que les autres ont de moi.
Je parle toujours donc des personnes qui ont une mauvaise image de soi, parce que je pense quand même que c'est un phénomène qui est assez courant et assez fréquent. Alors, quelles sont les conséquences à supporter par cet individu qui a donc une mauvaise image de soi? On sent mal-être, il va chercher des compensations, il va se retirer, il peut être en révolte, chercher des compensations contre les autres, ou même contre Dieu, hein, effectivement, parce que Dieu créateur, pourquoi tu m'as fait comme ça, tu ne m'as pas donné les moyens. Il va avoir des pensées négatives qui vont l'égarer et fausser évidemment son jugement. Donc, que faire?
L'image de soi, donc, est génératrice de comportements qui nous font mal. Comme vous venez de le faire, faire la différence entre ces comportements qui nous font mal et la mauvaise image de soi, c'est très important, parce qu'on peut comprendre, par exemple, quand on dit « je vais fumer une cigarette parce que ça me détend », le problème, il n'est pas dans le fait de fumer la cigarette, il est dans le fait qu'on est tendu.
Oui, bien sûr.
Donc, si on était détendu, on ne dirait pas « je vais fumer une cigarette parce que ça me détend ». Si je suis tendu, si je trouve à comment être détendu, je ne serai peut-être pas dépendant de la cigarette, ou dépendant de l'alcool, ou dépendant de la collection de timbres, ou dépendant de l'appréciation des autres, ou dépendant d'aller au cinéma, parce que je dis, quand je vais au cinéma, je suis bien, ou d'aller en vacances, ou etc. Il y a des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes dans leur travail, qu'ils vont travailler du lundi matin à 8h30 jusqu'au vendredi à 5h30, 6h, et ils sont mal, et ils disent vivement le week-end, parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et donc, on revient toujours un peu aux mêmes choses. Si ce que nous faisons bien, à ce compte-là, on n'aura pas cette mauvaise image de nous-mêmes, et ça n'aboutira pas à des dépendances comme l'agressivité, comme l'impatience, comme des comportements, comme manger, par exemple.
Sûr, oui. Hein,
j'ai, par exemple, une dame... qui était obèse, et cette dame-là, elle me dit « mais moi, je ne peux pas m'empêcher de manger à 9h30 du soir quand mon mari est devant la télévision. » Et cette dame attendait que son mari l'apprécie, que son mari parle avec elle, que son mari ait une relation qui la comble, qu'il soit vraiment avec elle. Alors, la solution, elle est, en fait, dans tout ce qu'elle peut faire d'intéressant et d'être, et qui va intéresser son mari, mais que son mari soit vraiment avec elle. Et tout ça, donc, est à la base d'une bonne image de soi.
Oui, alors peut-être pas pour se rassurer, ce serait un peu exagéré, mais disons, quand on ouvre la Bible, on trouve des personnages qui avaient une mauvaise image de soi. Quand Dieu s'adresse à Moïse, lui, il dit, je suis bègue, hein, il n'est pas question que je parle au public. Jonas aussi, il dit, non, je suis incapable d'aller dire à la population de Ninive, quoi que ce soit. Bon, il y en a d'autres, il y a Gédéon, il y a même Jacob dans la Genèse, et ainsi de suite. Alors, ça existe depuis toujours l'image de
la mauvaise image de
soi.
Alors, est-ce que Moïse a eu raison de dire « je suis bègue »
ben, vu maintenant, on peut se dire « ben non ». D'abord, il a été aidé.
C'est-à-dire qu'il a été aidé alors que Dieu ne le voulait pas.
Oui.
On trouve ça en Exode 4, et Dieu appelle Moïse à faire quelque chose, et Moïse lui dit, mais non, 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 compte pas sur moi. C'est assez surprenant.
Oui.
Si Dieu l'appelle à faire quelque chose, c'est que Dieu, c'est quand même notre fabricant, notre concepteur. Donc, je crois que, de toute évidence, Moïse est l'exemple, là, de ce qu'il ne faut pas faire. Moïse, il a d'immenses qualités.
Oui. Hein,
Moïse, c'est le maître de l'Ancien Testament.
Oui, alors il est même difficile de dire il refuse ce que Dieu lui demande, c'est un manque de foi. Alors
c'est un manque de foi.
Mais en fait, ça nous le montre quand même comme exemple d'homme de foi.
Oui, oui. Absolument.
Alors,
mais là, il a un manque de foi. Il a un manque de simplicité.
Ce petit passage.
Hein, et je crois que c'est... on a tous des moments dans notre vie où on manque de foi, donc tenons-en compte et vivons-les par la foi.
Oui, alors disons que peut-être pour être aidé, pour trouver une béquille à ce souffrant, parce que quand même ce qui a une image de soi est un souffrant, on ne peut pas dire le contraire quand même.
Oui.
Hein? Il y a peut-être la parole de Dieu qui peut nous aider.
Voilà, Pour revenir à une bonne image de soi, personnellement, je n'utiliserai pas le mot béquille, parce que la béquille, c'est la compensation. Et la compensation, elle, non seulement elle résout rien, mais elle amène deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne règle pas notre problème de mauvaise image de soi. Et le deuxième, c'est qu'on ne trouve pas son plaisir dans la chose qu'on fait.
Oui, moi je voyais la béquille comme un instrument qui me permet d'avancer et de marcher vers quelque autre chose.
Donc le chemin royal, le beau chemin, même s'il est difficile pour aller vers une image de soi réaliste, c'est le fait de faire ce que Dieu nous demande. Autrement dit, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on peut accéder à la connaissance de la volonté de Dieu, et une fois qu'on l'a compris, alors on le fait.
Oui, et disons, il y a aussi peut-être Romain, Paul dans Romain qui s'intéresse à ce problème-là, quand il dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. » Est-ce que ça ne rejoint pas un peu ce que vous voulez dire, en fait, faire confiance à Dieu, qui, lui, évidemment, donc, si on s'offre à Dieu, tel qu'on est, Dieu nous prendra et nous acceptera, et donc ça sera une solution, un premier pas, non ?
C'est ça, être dans cette liberté avec Dieu, de dire, mais finalement, je ne cherche pas à contrôler ma vie.
Mmh. Oui.
Je ne cherche pas à contrôler ma vie. Mmh. Je cherche, moi, à faire des choses vraies et voilà, ça c'est important.
Oui. Et si je reprends toujours dans la Bible, on dit « Votre corps est le temple même du Saint-Esprit ».
Oui.
Il faudrait qu'on se le mette peut-être plus souvent dans la tête.
Oui.
Hein? Vous êtes d'accord avec ça quand même. Hein?
Oui.
Et vous nous appartenez, non pas vous-même. Donc je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à Dieu. Donc je ne peux pas être mauvais, disons, moche, laid, bête, aux yeux de Dieu.
Mais c'est moi qui dois prendre soin de ce qui appartient à Dieu.
Mmh. Tout moi.
Tout moi.
Tout moi.
Hein? Et donc quand j'entends des gens me dire « je ne peux pas m'empêcher d'eux », je dis mais...
C'est un problème de volonté, là, non ?
Eh oui.
Eh oui.
De cap, de lucidité.
De choix.
De choix.
Oui. Donc, il faut être orienté dans ce sens-là, son choix, pour évidemment avancer dans le bon sens.
Oui.
Effectivement. Alors, je peux continuer. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a été racheté à un grand prix. Et c'est nous-mêmes.
Oui.
Nous, entièrement, là aussi. Hein. Donc, honorez donc Dieu dans votre corps. Donc, en lisant tous ces principes-là, je pense qu'effectivement, on se dit, bon, bah, vis-à-vis de Dieu, on nous le dit, on nous le redit, ça doit pouvoir marcher et arriver.
Et ça marche.
Et ça marche, vous l'assurez.
Oui. Donc, ça marche parce que quand on est, même dans une situation de fragilité, dans cette certitude intérieure que Dieu... prend soin de nous comme la perle de son œil, comme la prunelle de son œil, pardon, alors on est presque heureux de vivre une situation fragile.
Oui,
mais... Parce qu'on se dit, waouh, même si je ne maîtrise pas tout, même si je ne me rends pas compte des choses, alors je vais dans un chemin dans lequel je sais que j'ai de la difficulté, mais dans lequel la présence de Dieu est là parce qu'on lui laisse la place, justement.
Voilà,
parce qu'on lui laisse l'occasion de s'exprimer.
C'est quand je suis faible que
Dieu est fort.
Que Dieu est fort et intervient, bien sûr. Hein. Oui, c'est certain. Voilà.
Il semble bien, avec ce passage de 2 Corinthiens 12, que Paul, qui dit qu'il avait une écharpe dans la chair, qu'il avait un problème important aux yeux. Hein, en Galates 4, il est dit, Paul dit, hein, je rends témoignage, que si vous aviez pu vous arracher les yeux et me les donner, vous l'auriez fait. Et en Galates 6, il dit, voyez avec quelle grosse lettre je vous ai écrit, parce que c'est une lettre qu'il a faite de sa propre main, et je pense que c'est la première lettre même qu'il a faite. Et donc, je crois que là, Paul avait cette écharde, hein, il avait un problème de vision, et donc il dit Il dit ouvertement, voilà, j'ai supplié le Seigneur, franchement, je suis à ton service, je vais faire des lettres, je vais les écrire.
Et j'y vois pas.
Opère un miracle, s'il te plaît. Et il ne l'a pas fait.
Et oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a aussi autre chose d'important, parce que moi, je vois un peu l'influence aussi de l'environnement, comme on dit maintenant. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Dans l'air aussi, il y a le monde qui peut nous influencer,
oui.
Qui nous amène à mal penser, à mal se voir, ou fait certain. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Donc, il faut changer nos pensées pour ouais. avancer, pour disons, arriver à s'améliorer, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu.
Voilà.
Hein? Bon, je connais ce qui est beau, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, et ainsi de suite. Donc, c'est un changement complet du style de vie qu'il faut voir.
Hein? Oui, parce que, habituellement, dans notre société, on pourrait dire, en général, hein, après ça dépend des gens, ça dépend des enseignants, mais quand même, en général, la façade, le brillant, la frime, comptent énormément. Aujourd'hui, on pourrait dire les gens qui sont bien habillés, les gens qui ont de beaux diplômes, les gens qui ont une belle maison, les gens qui, etc. Et
combien ils sont payés à la fin du
avec
mois.
Avec un salaire. Et donc, à l'inverse, par exemple, quand Samuel a choisi un roi, alors Dieu lui a dit, l'Éternel regarde au cœur, l'Éternel ne regarde pas à l'apparence. Donc, regardez les gens au cœur, c'est possible. Vous avez beaucoup parlé de ces gens qui font du mal en méprisant, hein, les autres en dominant, etc. Mais nous, est-ce qu'on fait du mal aux autres, hein? Et donc, je crois qu'on peut regarder au cœur des gens, on peut regarder aux potentialités des gens, on peut vraiment aider les gens parce qu'on sait qu'ils peuvent, qu'ils ont de la beauté, qu'ils ont des capacités, et donc voilà, les aider à aller dans ce sens.
Et il y a aussi évidemment, toujours dans Paul, disons qu'il faut penser que le diable aussi est dans le monde et qu'il ne faut pas l'écouter parce que c'est un menteur et qu'il peut nous fourvoyer, nous amener à nous tromper. Donc là, être un appel à la vigilance.
D'où la grande question, comment faut-il faire pour se tenir dans la lumière? Et ça, on va en parler.
Bien sûr, comment être dans la lumière?
Pour être dans la lumière, il faut être dans la présence de Dieu, c'est-à-dire être dans un face-à-face intérieur, et il faut accepter de dire non au mensonge. Autrement dit, quand je sais que Dieu dit oui, si moi je dis oui, mais, alors déjà ça ne va pas. Hein? Et voilà, c'est ça, se tenir dans la lumière, être devant lui personnellement du point de vue de la relation et être devant lui actionnellement du point de vue de la compréhension des choses. Et il y a cette réalité, cette chose extraordinaire que Dieu nous, cette promesse que Dieu nous fait, que quand on est dans la lumière, eh bien, on comprend. La lumière, les ténèbres. Nous, on a peur des ténèbres et on voudrait, on a peur de Satan, des démons, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de Satan et des démons. D'une part, comment ne pas être dans les ténèbres, c'est en allumant la lumière. On ne peut pas enlever les ténèbres, ce n'est pas en enlevant les ténèbres qu'on met la lumière, c'est en mettant la lumière qu'il n'y a plus de ténèbres. Autrement dit, c'est dans la présence de la vérité qu'il n'y a pas de mensonge.
Alors, je continue aussi disons notre analyse de Romains 12, c'est au verset 3, qui dit en fait, « Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. » Donc là, c'est une invitation aussi, c'est une consigne, bon, je n'aime pas le mot consigne, mais enfin, disons un précepte, disons, à appliquer, une règle de vie. Hein.
Ça montre très bien que ça nous est possible d'avoir une opinion de nous-mêmes, même réaliste. Et cette opinion de nous-mêmes, on l'a C'est un des fruits de la lumière.
Voilà.
C'est quelque chose qui est accessible, qui est à rechercher, qui est à rechercher avec continuité et qui dépend beaucoup, comme disent les versets 1 et 2, de la connaissance de la volonté de Dieu qui nous est révélée, et ensuite, du verset 4 jusqu'à la fin du chapitre, de la pratique de la volonté de Dieu. Il semble bien que si je sais ce que je dois faire, versets 1 et 2 de Romains 12, et si je fais ce que je dois faire, versets 4 à 21, je crois, alors ça marche, en fait.
Oui, alors en fait, aussi, un peu pour conclure cette partie-là, on peut dire qu'il faut effectivement ne pas avoir de complexe ni de supériorité, ni d'infériorité. Et que nous faut chercher quelle est notre juste place et celle des autres devant Dieu.
Absolument.
Ce qui va être bon pour l'humain de soi.
Et donc, comment ne pas avoir de complexe de supériorité ou d'infériorité? C'est pas en cherchant à ne pas l'avoir, mais c'est en discernant ce que j'ai à faire et en le faisant. Et si je suis comme ça, alors je suis bien. Je ne cherche pas à me comparer aux autres. Je suis à ma place et je fais des choses qui me font du bien.
Oui, et par la suite aussi, évidemment, versets 6 à 8, je crois que quand même, Paul donne tout en fait une précision essentielle, c'est que chacun reçoit des dons différents. Donc chacun, en fonction de sa propre mesure, on reçoit, pour certains c'était la prophétie, l'enseignement, l'encouragement, et ainsi de suite, la direction, et ainsi de suite. On peut étendre ces exemples-là. Donc Dieu va nous demander quelque chose en fonction de ce qu'on peut faire.
Absolument.
Donc si je trouve que c'est simple, que c'est un peu trop petit, ben, c'est que c'est Dieu qui le veut. Si Dieu me demande des efforts énormes qui me paraissent me dépasser, c'est que certainement je suis capable de le faire, puisque c'est ce qu'on me demande de faire.
Oui.
Voilà.
Oui, ça me paraît tout à fait clair. Et je pense à la parole de Jésus qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Autrement dit, je pense que souvent, on n'accède pas à des grandes parce qu'on n'est pas fidèle dans les petites.
Mmh. Oui. Alors, en fait, il faut vous dire qu'on n'est jamais, disons, on ne demande pas quelque chose au-delà de nos forces. Parce que Dieu est quand même un père et il faut aller dans ce sens-là.
Oui.
D'accord, voilà. Alors, je crois que, bon, là, on va quitter un peu Paul, mais je crois que pour conclure cette partie, on peut dire que l'Esprit va nous apporter son aide. On n'est jamais quand même seul. Il va nous aider, il va nous éclairer.
Et il nous apporte son aide pour discerner la volonté de Dieu, après, pour faire ce que Dieu nous demande, et du coup, pour avoir une opinion de nous-mêmes qui est ad hoc.
Voilà, donc il ne faut pas être paresseux, timoré, prendre la tangente, comme on dit. Ce serait être incorrect et injuste envers Dieu.
Oui.
Et en plus, notre image va ressentir, puisqu'on ne fait pas ce qu'on est appelé à faire.
Dans ce chapitre 12 des Romains, je vois quatre grandes parties. La première, c'est donc le discernement de la volonté de Dieu, versets 1 et 2. La deuxième, c'est le fait d'avoir une opinion de soi qui est réaliste, verset 3. La troisième, c'est de prendre ma place dans ce qui est appelé le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, ma place dans la société en tant que chrétien, jusqu'au verset 8. Et après, du verset 9 au verset 21, c'est un ensemble de choses très pratiques qui commencent par l'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors, je trouve que c'est finalement très simple d'avoir une bonne image de soi, mais ça demande une exigence dans les petites choses qui est très grande.
Puisque vous parlez de l'amour, il y a aussi quelque chose qui vient à l'esprit tout de suite, c'est que, en fait, on ne peut aimer les autres que si on s'aime soi-même.
Il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même », ce qui montre une comparaison, mais peut-être pas une impossibilité. C'est-à-dire que aimer, c'est un commandement. Alors je crois qu'on a intérêt à aller dans le sens du commandement et d'aimer, et de ne pas se dire que quelque part j'en suis handicapé, pas capable. Mais après, quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », ça veut dire « je pense que si tu veux une mesure qui puisse quantifier le fait d'aimer ton prochain, alors c'est comme tu t'aimes toi-même. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui ne s'aimerait pas soit handicapé à aimer les autres. Je pense que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est peut-être parce qu'il n'aime pas assez les autres, justement. Et en allant plus vers les autres...
L'inverse est vrai.
Voilà.
Oui, oui. Alors, on est dans une situation particulière. Donc, comment on peut pratiquement, comment bien s'identifier et se construire? Vous pouvez proposer peut-être un plan.
Un plan, oui. J'ai bien aimé cet outil qu'un psychologue a proposé. Je ne me souviens pas de son nom, donc si jamais il écoute, eh bien, je l'en remercie vivement. C'est quelqu'un qui a proposé 4 mots qui sont valables dans tout groupe, des mots qui commencent par A et qui finissent par Sion. Et donc, ces 4 mots sont affection, affirmation, attention et acceptation. Alors, qu'est-ce que ça représente ? L'affection, eh bien, c'est le fait de recevoir de l'amitié, de l'amour de la part de ceux qui sont autour de nous, l'affection. L'attention, c'est le fait d'avoir conscience que dans le groupe, on fait attention à ce que je suis en train de dire. L'acceptation, c'est le fait d'être accepté par les autres, quel que soit ce que je dis ou ce que je fais. Et l'affirmation, c'est la capacité qu'on me donne de m'affirmer dans un groupe. Et donc, si dans un groupe donné, je reçois ces 4 choses, je suis bien, en fait. Mais le problème, c'est que si je suis dépendant de ce que me dit le groupe, si je ne suis pas bien avec ces 4 choses, alors ben, on peut dire que comment est-ce que je vais faire ? Alors, il faut que je comprenne bien que ces 4 points me sont donnés par Dieu. Autrement dit, Dieu m'aime. C'est l'affection. Dieu fait attention à ce que je fais. C'est l'attention. Dieu me permet de m'affirmer, puisqu'en fait, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Et Dieu m'accepte, quel que soit ce que je vais faire, parce que de toute façon, quel que soit ce que je vais faire, il va me pousser vers quelque chose qui va être profitable. De sorte que la règle de ces 4 A est avant tout une règle personnelle dans ma relation avec Dieu, où je dois bien comprendre que Dieu a ses grandes valeurs à mon égard. Et on peut dire que dans la famille, dans l'église, dans tout groupe, hein, le groupe des joueurs de bridge, ou etc., il y a ces réalités dans un groupe. Quand ces réalités ne sont pas là, alors ça ne se passe pas bien. Mais si moi je mets en œuvre ces réalités dans ma relation avec Dieu, alors j'en suis vraiment avec un bénéfice marqué.
Et oui, alors, mais peut-être aussi que pour s'identifier, il faut aussi connaître, savoir les problèmes que nous avons, savoir qui on est. Et là aussi, il doit y avoir quand même des jalons à suivre.
Alors, je suis pas sûr qu'on puisse savoir dans l'absolu qui on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec nous ne connaissons qu'en partie. Je crois que, par contre, ce qu'on peut vraiment savoir à tout moment, c'est que Dieu nous révèle ce qu'il faut de ce que nous sommes. Si on veut être dans la lumière, ben là on a 3 grandes fenêtres d'un mètre carré chacune et avec de la lumière qui rentre, alors on voit. Et si on veut savoir en fait à quel point Dieu fait attention à nous, alors on le discerne. À quel point Dieu nous affectionne, alors on le discerne. À quel point Dieu nous demande de nous affirmer, alors on le discerne. À quel point Dieu nous accepte même quand on fait des erreurs, alors on le discerne. Vous voyez, cette différence entre vivre dans le moment avec Dieu plutôt que d'aller chercher dans les profondeurs, de comprendre des choses dont je ne suis pas sûr qu'on a forcément besoin d'être libéré.
Ah oui, parce que moi je pensais quand même qu'il faudrait peut-être savoir la situation dans laquelle on était pour l'accepter. Alors évidemment, son corps, son âge, ça on le sait, on n'a pas besoin de savoir. Hein. Et tout ce qui forme son être, notre situation professionnelle, et ainsi de suite. Accepter dans la situation. Et puis aussi, peut-être, les événements qui ont pu influencer dans ma vie, justement, mon image, et ce que je suis, dans la société, l'histoire, l'éducation, la prise de responsabilité à un certain moment, et ainsi de suite. Je croyais quand même que c'était relativement important pour s'identifier. C'était des éléments de base.
Moi, je ne les mettrais pas dans la catégorie des éléments de base.
Oui, bon.
Voilà, je pense que on aura beaucoup plus une bonne image de soi en faisant ce que Dieu nous demande qu'en comprenant pourquoi est-ce qu'on a mal fait. En faisant ce que Dieu nous demande, on est dans l'apprentissage, dans un apprentissage positif, constructif et qui n'est pas incertain. En cherchant à comprendre pourquoi on a mal fait, là, je crois que c'est assez incertain parce que c'est très complexe, justement.
Oui, donc on peut évidemment donc rejoindre de ce que vous avez dit. Donc l'enfant de Dieu connaît son père, donc il n'est pas perdu, il n'est pas abandonné, c'est même un fils adoptif, mais il n'est pas bâtard. Hein, donc il n'est pas rejeté. Il sait que son avenir est prévu par le père, vous êtes d'accord, et il vit une relation d'amour. Obligatoirement, le père l'aime, il aime le père, à la fois. Hein, et de cette consolation, ça va le libérer de tout ce qui était des poids, la timidité, la crainte, la peur. Il prend de l'assurance. Voilà.
Absolument.
Voilà. Bien, merci.
Donc quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers le présent et le futur que vers le passé.
On fait table rase de ce qu'on pensait être et il y a une reconversion, un changement. Alors on regarde vers l'avenir.
Oui, je dirais que c'est peut-être pas fondamental de tellement s'occuper du passé. Le passé ressurgit dans le présent parce que le présent montre nos incapacités qui sont ceux qui viennent du passé, de notre construction. Mais à ce compte-là, c'est dans le présent qu'on les vit et qu'on les résout, plutôt que dans le passé. Moi, je ne suis pas un inquiet du passé, parce que je pense qu'il ne faut pas être inquiet du passé. Je crois que les choses que Dieu nous appelle à régler, on va les régler, mais on les règle dans le présent. On n'est pas
On le règle
inquiet
dans
du
le présent
passé,
et on se prépare à l'avenir.
et on ne cherche pas à éluder, on ne cherche pas à... comment dire, à cacher, à dissimuler. Non, on met dans la lumière de Dieu, alors les choses se règlent tranquillement, et ça, c'est aussi très confortable.
Oui. Et en fait, il faut arriver à ressembler à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, il y a peut-être trois points essentiels. C'est là, être parfait, être saint, être en unité avec Dieu, et puis aimer.
Oui.
Parce que l'image de Dieu, elle est parfaite. Donc on doit tendre à ressembler à Dieu pour avoir une bonne image de soi
Voilà.
et la donner aux autres aussi.
Voilà. Dans ce que vous dites là, être parfait, être saint et aimé, j'entends trois choses qui sont très très complémentaires. Être parfait, c'est faire ce que Dieu me demande. Être saint, c'est être en relation avec lui.
Oui.
Et aimer, c'est être en relation avec les autres.
Avec les autres.
Donc il y a quelque chose de vertical, hein, être en relation avec Dieu. Et il y a deux choses horizontales qui dépendent, qui sont d'une part de faire et l'autre part d'être en relation. Ça, c'est un petit peu les deux problèmes de notre société. Il y a des gens qui ne recherchent que la relation et qui ne sont pas beaucoup en action, et des gens qui recherchent beaucoup l'action et qui ne sont pas beaucoup en relation. À ce compte-là, les gens qui recherchent l'action, ils sont activistes, peu leur importe avec qui. Par exemple, pour prendre un exemple très précis, il y a des gens pour qui l'important, c'est d'avoir des relations sexuelles. Mais ce n'est pas important de savoir avec qui. On voit ça dans les journaux en ce moment. Et donc, à côté de ça, il y a des gens qui sont tellement sensibles à la relation qui pourraient faire n'importe quoi pour être en relation. Et ça, c'est aussi dommage. Parce que l'action, elle a du prix à Dieu. Et notre action est importante. C'est important de, voilà, d'être bien installé, d'avoir des documents qu'on aura bien fait, qu'on aura bien effectué, d'avoir un programme qui sera raisonnable, qui sera accessible, etc., et dans lequel on aura des bonnes choses.
Alors, est-ce qu'on peut conclure là sur l'image de marque?
Conclure. L'image de marque, l'image de soi, c'est tout à fait pareil.
Oui, c'est
Hein,
vrai, c'est un
c'est
saut qui est
conclure,
synonyme.
c'est, je pense, dire d'abord d'où vient la mauvaise image de soi. La mauvaise image de soi, elle vient quand même d'une désobéissance de Dieu, quelque part. Je n'ai pas perçu sa volonté, je ne suis pas en face à face avec lui, j'ai de mauvaises habitudes que je ne cherche pas finalement à changer. Donc il y a quelque part, au départ, une désobéissance qui fait que j'entretiens une mauvaise image. Voilà un premier point. Deuxième point, une bonne image de soi vient du discernement de la volonté de Dieu, qui est quelque chose de, qui n'est pas quelque chose de magique. Pour moi, le discernement de la volonté de Dieu, c'est le fait qu'à la lumière de Dieu, je vois, et je vois de mieux en mieux. Quelqu'un qui viendrait pour la première fois dans ce bureau, peut-être qu'il n'aura pas vu qu'il y a ici une plante, là des costumes, là une table, etc. Voilà, il n'aura pas vu. Mais quand on rentre vraiment dans la connaissance de Dieu et qu'on regarde, petit à petit, on voit de mieux en mieux. Et le fait de voir de mieux en mieux, c'est vraiment discerner la volonté de Dieu. Et quand on la discerne bien, après on peut faire avec précision, avec exactitude. Alors, donc faire la volonté de Dieu. Puis, troisièmement, une bonne image de soi, c'est quand même beaucoup plus le fait de faire la volonté de Dieu que le fait de rechercher à avoir une bonne image de soi. Je dirais que rechercher une bonne image de soi, c'est stupide. L'image de soi n'aura jamais été aussi bonne que quand on ne s'en occupera pas. Parce qu'en fait, on est occupé à être fidèle, c'est-à-dire à être en relation avec Dieu et à faire ce que Dieu nous demande. Alors que quand on commence à s'inquiéter, si est-ce que ce que j'ai fait est bien, est-ce que ça plaira à certains, est-ce que je l'ai fait de manière opportune, etc. Alors là, ça devient très compliqué, je pense, parce qu'on perd un peu le terrain de l'obéissance. Quand je fais ce que Dieu me demande, les choses sont simples. Quand je commence à me poser plus de questions, alors là, ça devient compliqué.
Donc, vous se reposez en Dieu.
Voilà.